Maintenant, je suis troublée. Et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venue en cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, Nous avons entendu de la loi que le Christ demeure pour toujours. Comment donc peux-tu dire, toi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez, pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en la lumière pour devenir fils de la lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha d'eux.
Bonsoir. Merci Anne pour la lecture. Je ne sais pas si ce texte vous a fait la même impression que lorsque je l'ai lu pour la première fois. Il m'a paru bizarre, un peu obscur. J'avais du mal à comprendre où est-ce que Jésus voulait en venir avec ses propos. Ce qui est évident, c'est que c'est un moment de très grande importance, de grande gloire, comme l'exprime Jésus. Et pour mieux comprendre ce terme de gloire, nous pouvons lire sur le site, je ne suis pas très fier du site, mais auféminin.com, dans la rubrique « Moi, émotion », ce qui suit. Il y a des moments comme ça à marquer d'une pierre blanche, des instants fugaces où l'on se sent la reine du monde ou les rois du monde pour vous, messieurs, et dont on voudrait qu'ils durent une éternité, des quarts d'heure de gloire. On en a toutes connues. Parce qu'on a bluffé ses proches, pris sa revanche ou tout simplement remporté une victoire personnelle. Et là, il n'y a plus qu'à savourer son triomphe. Bon, vous savez maintenant ce que je lis pendant mon temps libre. Mais dans notre texte, cette heure de gloire est pour Jésus un sujet de grande souffrance. Il ne s'agit ni de son entrée triomphante à Jérusalem, ni d'un miracle extraordinaire qui va susciter l'admiration de la foule, mais il s'agit de sa mort sur la croix et qui aura lieu quelques chapitres plus loin. Ce n'est pas une mort qui sera subie, mais c'est la raison pour laquelle il est venu. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 27. Avant d'aller plus loin, vous ne trouvez pas que c'est étonnant, étrange, que la croix, un instrument de torture, soit le symbole du christianisme ? Dans l'un de ses discours, le philosophe romain Cicéron, là le niveau un peu plus haut, déclarait, donc c'est Cicéron, « Lier un citoyen romain est un crime. Le flageller est une abomination. Le mettre à mort est presque un meurtre. Le crucifier, comment en parler ? Il n'existe pas de mots pour décrire une action aussi horrible. Choisir la croix comme symbole, c'est comme si à la place de Marianne, la République avait choisi la guillotine comme symbole national. Pourtant, ce qui peut apparaître honteux, odieux aux yeux de l'homme, aux yeux des hommes, est devenu symbole de fierté pour les chrétiens. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi la pensée que de me glorifier dans autre chose. » C'est tout de même une déclaration surprenante qui nous interpelle. La question que je pose ce soir, c'est peut-on aimer la croix ? Peut-on aimer la croix ? J'avoue que c'est un terme qui n'est pas très habituel avec tout ce que ça implique comme engagement affectif. Mais ce qu'on va montrer ce soir, ce que je vais essayer de montrer ce soir, c'est que oui, nous pouvons aimer la croix. Et ce, pour deux raisons principales. L'aimer pour ce qu'elle révèle et l'aimer pour ce qu'elle accomplit. L'aimer pour ce qu'elle révèle. Comme nous pouvons le noter dans le verset 27, Je vous conseille de garder vos Bibles ouvertes. On va essayer d'y référer au texte constamment tout au long du message. Donc, comme nous pouvons le noter dans le verset 27, Jésus est en agonie spirituelle en pensant à la mort qui l'attend. Et où, nous dit la Bible, il va se charger de nos péchés. D'accord, on va faire une pause. Vous vous demandez peut-être, mais de quoi je parle ? Se charger de nos péchés ? Pour ceux qui se demandent que veut dire le mot péché, eh bien simplement, il s'agit de vouloir être Dieu sur sa vie à la place de Dieu, comme Bill a dit dans son témoignage. C'est déclarer à Dieu notre indépendance et par conséquence, être séparé de lui, aliéné de la source même de la vie. Petit exemple, imaginez une petite fille, 4 ans, 5 ans, qui va voir sa mère, ses parents, et qui lui dit « Maman, merci de m'avoir enfantée. C'est gentil, c'est adorable. Merci pour tous les soins que tu m'as donnés, mais là maintenant, je veux prendre mon indépendance. Je veux être libre. C'est pas personnel, c'est pas personnel, mais c'est le temps que je m'en aille. Parce que toutes tes restrictions, ça commence à peser un peu. C'est un peu la même chose que nous faisons avec Dieu. Et Dieu aurait pu nous laisser vivre à notre guise, loin de lui. C'est ce que nous lui demandons après tout. Mais parce qu'il nous aime, il veut nous épargner l'enfer que d'être loin de lui éternellement. Et de ce fait, si Dieu devait lui-même venir et mourir sur la croix pour nous ramener à lui, ceci nous révèle à quel point notre déclaration d'indépendance vis-à-vis de lui est grave. Elle est lourde de conséquences. Ça a pris 10 ans à Bi peut-être de se rendre compte de cela. Mais le texte ce soir nous le révèle clairement. Cependant, le problème de notre société, c'est qu'on tend à minimiser les choses en les relativisant avec notre propre logique. Et puis, dans la conscience collective, il faut le dire, tout le monde ira au paradis. C'est évident. Au final, c'est un Dieu d'amour. Il va finir par pardonner tout le monde. Et puis, ok, je ne suis pas un saint, mais quand même, je ne suis pas un méchant. J'ai de nombreuses qualités qui plaident en ma faveur. Je ne suis pas indifférent vis-à-vis des autres. Et en plus, je vote écolo. Je m'arrangerai avec Dieu. On s'arrangera. Et ainsi, l'homme persiste dans son endurcissement, comme ce fut le cas de la foule dans notre texte. Rappelons quelques éléments de contexte. Au chapitre 9, Jésus donne la vue à un homme aveugle de naissance. Ensuite, il ressuscite Lazare, qui était mort pendant 4 jours. Et ce même Lazare est en train de se balader dans Jérusalem, à la vue de tout le monde. Mais toutes ces choses n'étaient pas suffisantes pour la foule. Ils sont déçus. Ils veulent un Messie différent. Un Messie qui correspond plus à leurs aspirations politiques. Ils veulent un leader politique. Un général de guerre. Et c'est également un peu notre cas aujourd'hui. Nous voulons un Dieu qui nous arrange, un Dieu qui acquiesce, un Dieu béat, un Dieu tolérant qui accepte le reniement même de son existence. Nous voulons un Dieu du dimanche, un Dieu des fêtes, un Dieu pompier, un Dieu distributeur de bénédictions, mais d'un Dieu qui règne sur nos vies entières et qui demande toute notre attention et tout notre cœur, nous n'en voulons pas. Les manquements, les suffisances, voire l'indifférence qui découle de cet état d'esprit ne peuvent pas être balayés d'un revers de main par un Dieu qui est saint, juste et cohérent avec lui-même. Si c'était le cas, est-ce qu'on pourrait le prendre au sérieux? La croix nous révèle donc que le bateau de notre vie coule. Nous avons percuté l'iceberg et à moins de nous diriger vers les canaux de sauvetage, nous coulerons aussi. Allons-nous donc rester sur place, écouter la valse que jouent les musiciens? Petite référence à tous les fans de Titanic. Que nous révèle aussi la croix? Elle nous révèle la gloire de Dieu. Au verset 28, Jésus dit « Père, glorifie ton nom ». Que veut-il dire par là? Quand vous pensez à la gloire de quelqu'un, prenez l'exemple de Napoléon, vous pensez aux conquêtes, vous pensez aux victoires. Et l'arc de triomphe est là pour nous rappeler tout cela. Or, comme nous l'avons déjà mentionné, la gloire de Dieu, dans notre texte, est manifestée par la croix, par la mort sur une croix. N'est-ce pas paradoxal avec un Dieu grand, puissant? Dans l'Ancien Testament, le terme utilisé pour décrire la gloire de Dieu, c'est kabod. Ça veut dire poids. C'est quelque chose de lourd. Mais ce terme désigne également la splendeur, la révérence, la dignité. Et la Bible nous dit que la gloire de Dieu remplit toute la création. Et l'homme ne peut pas se tenir devant elle. Prenez l'exemple de Moïse qui demande à Dieu de lui permettre de contempler sa gloire. À sa demande, le Seigneur répond « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. » Attention, tu ne pourras pas voir ma face car l'être humain ne peut pas me voir et vivre. Et c'est ce Dieu-là que nous avons offensé. Ce n'est pas un Dieu bisounours, mou. Nous percevons donc que la gloire de Dieu, quand elle est révélée sans médiation, c'est une gloire qui terrifie, qui écrase. C'est une gloire qui est lourde à porter. De la même manière, est-ce que nous pouvons regarder le soleil directement sans médiation en quelque sorte? De la même manière, nous ne pouvons pas regarder la gloire de Dieu directement. Et pourtant, et c'est ce qu'on chantait tout à l'heure, Dieu veut que nous le voyions. Il veut que nous le connaissions parce qu'il nous a créés pour être en communion avec lui. Et la Bible nous dit que la pleine manifestation de sa gloire n'engendrera non pas la destruction, mais elle engendrera le salut. C'est magnifique. Comment est-ce qu'un Dieu saint qui ne peut laisser passer le mal, quand il se révélera pleinement, ceci engendrera le salut et non pas la destruction? Eh bien, parce que c'est lui-même qui a pris le jugement sur lui. Et sa pleine manifestation de la gloire de Dieu, elle s'effectue dans la personne de Jésus-Christ, dans son œuvre sur la croix. Jésus est ce médiateur dont nous avons besoin. Il est la gloire de Dieu lui-même. Il est Dieu fait chair, nous dit Jean au chapitre 1. Au lieu donc de nous écraser, la gloire de Dieu, au contraire, elle nous bouleverse, elle nous trouble. Prenez quelques instants pour y penser. Le Créateur du ciel et de la terre, celui qui tient tout par la force de sa parole, cet être-là, eh bien, il s'est humilié et il s'est abaissé jusqu'à nous et il a supporté sur lui-même la mort de la croix pour payer le prix de nos offenses. Qu'est-ce que cela nous inspire? Sommes-nous animés par un esprit de peur, de crainte ou par un esprit de reconnaissance et d'amour? Une personne avec qui je discutais à Montparnasse me disait « Mais ce que tu dis est juste trop beau pour être vrai. » Et pourtant, c'est ce que la croix nous révèle. C'est ce que la Bible tout entière nous dit. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi, de cette manière, la croix bouleverse toute notre conception de la méritocratie. Faire des choses pour mériter, faire pour accomplir, soyez bien pour obtenir les faveurs de Dieu. Tout ça est bouleversé. Tout ça est renversé. Mais attention, certains comme Gandhi estiment que la mort de Jésus est finalement juste un bel exemple qui est supposé nous toucher, qui est supposé nous apprendre à vivre mieux, d'une manière moins individualiste. Est-ce donc juste un bon exemple? Est-ce juste un acte de solidarité divine? Petit exemple, imaginons que je me promène avec ma femme Sophie au bord de la Seine et là, je regarde Sophie et je lui dis « Sophie, je t'aime ». Et je me jette dans l'eau. Et là, vous allez le dire, oh, c'est mignon. Il l'aimait vraiment. Ou vous allez dire, mais il est complètement fou. Et je serais complètement fou de le faire. Mais imaginez la même histoire, mais différemment. On marche au bord de la Seine en se tenant par la main. Et là, Sophie tombe dans l'eau. Et je cours, et je saute dans l'eau pour la secourir. Et je meurs dans le processus. Mon acte avait un sens réel. Mon acte était utile. C'était une question de vie et de mort. Et de la même manière, nous pouvons donc aimer la croix pour ce qu'elle accomplit concrètement à l'échelle du monde et de nos vies. Je propose qu'on fasse une petite pause. Peut-être vous pourrez réveiller la personne qui est assise à côté de vous. Bon, si vous n'avez rien suivi jusqu'à maintenant, voici ce qu'on a dit. L'homme s'est éloigné de Dieu. Et cela a des conséquences graves
et éternel. Et Dieu, loin d'être indifférent, et au lieu de nous écraser par sa justice, par ses exigences, il est venu à notre recherche pour nous sauver en manifestant sa gloire et son amour sur la croix. Bon, la pause est terminée. On reprend avec la deuxième partie. Aimer la croix pour ce qu'elle accomplit. Au verset 31, Jésus annonce que le prince de ce monde sera jeté dehors. Prince de ce monde, ce terme désigne l'adversaire, Satan, l'accusateur, parce qu'il accuse les enfants de Dieu. Ces gens-là sont des pécheurs, des rebelles. Comment peux-tu les aimer ? Regarde leurs actes, regarde leurs pensées. Ils doivent payer. Et de la croix, Dieu répond : en effet, ils sont pécheurs. Ils méritent d'être punis. Mais j'ai payé à leur place. Ils sont quittes. Ils sont libres. Et de ce fait, la croix pourrait laisser croire à la défaite, à la victoire de Satan. Mais en réalité, c'est sa défaite. Le prince de ce monde n'a plus d'emprise sur nous si nous sommes en Jésus. Deuxième chose que la croix accomplit concrètement. Verset 32. Jésus annonce qu'une fois sur la croix, il attirera tous les hommes à lui. Le mot « tous » ici désigne des gens de toutes les nations, de tous les peuples. Le salut n'est plus uniquement réservé à une caste de la population, au peuple élu, au peuple d'Israël, mais ouvert à tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et maître. Même les Irlandais nés en Suisse et qui vivent en France. N'est-ce pas, Paul ? Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il y a de si attirant dans cette croix ? Si nous reprenons l'histoire de la scène avec Sophie, imaginez que le lendemain, vous lisez dans le journal « Wissam est mort pour sauver Sophie alors qu'elle était en train de se noyer ». Cela va vous toucher peut-être pendant quelques minutes et puis la vie va reprendre son cours. Mais imaginez que c'est vous dans l'eau. Imaginez que c'était vous et que quelqu'un vient pour vous sauver. Ça change tout. Ça change tout. La croix est donc ce canot de sauvetage dont nous avions tous besoin. Mais la croix assouvit aussi le besoin le plus profond de l'homme, celui de compter pour quelqu'un. Compter pour son patron, compter pour sa femme, pour ses amis, pour la société. Mais la croix nous révèle, elle nous montre que nous comptons pour Dieu. C'est là une véritable libération. Quelle libération ! Cependant, face à cette déclaration, la foule est déçue. Elle est ironique. Elle se moque. Qui est ce fils de l'homme ? C'est le point de rupture. C'est pour cela que Jésus ne cherche même pas à argumenter. On serait attendu à ce qu'il fasse une belle démonstration, A plus B, pour leur montrer qu'il est le Messie, et ainsi de suite. Mais non, il ne cherche plus à argumenter, mais il plaide avec eux. C'est leur dernière chance. Croyez en la lumière. Il y a un sens de l'urgence dans les propos de Jésus. Croyez en la lumière, nous exhorte-t-il, car la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Jésus est cette lumière. Et cette lumière, on lit dans l'évangile de Jean au chapitre 1, était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. N'attendez pas le prochain train, car il risque de ne pas y en avoir. N'attendez pas un bouleversement dans votre vie, car il se peut que l'épreuve ait raison de vous. Personne ne sait de quoi demain est fait. Un jour l'homme est, un autre il n'est plus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, nous dit l'apôtre Paul, parce qu'il y a quelque chose de plus à cette vie. La foi n'est pas un bonus qu'on vient rajouter à notre quotidien, un élément en plus pour ceux qui en éprouvent le besoin. Non, la foi est vitale. C'est une question de vie et de mort, nous dit ce texte. Et c'est donc le choix le plus important que nous aurions à faire. Et nous sommes tous égaux devant ce choix. Si c'est si important, est-ce que nous prenons le temps de chercher ? Est-ce que nous prenons le temps de nous poser ces questions ? Ou est-ce que nous sommes un peu victimes de notre société ? On a le temps pour rien. Les pharisiens sont un exemple vivant du fait que ce ne sont pas ceux qui ont la loi et les prophètes qui croient. En d'autres termes, ce ne sont pas ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, protestante, catholique, orthodoxe ou autre, qui croient, comme nous l'a montré Bi encore une fois. Bien qu'ils aient tous les éléments pour, mais que ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont en train de couler et qui ont besoin d'être secourus. Ceux qui sont assez honnêtes pour reconnaître qu'ils ont préféré de vivre indépendamment de Dieu, selon leur propre voie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, nous dit Dieu dans Deutéronome 30, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Comment choisir la vie ? En essayant de bien vivre ? Non, croyez en la lumière, nous dit ce texte. Croyez que Jésus est descendu dans notre trou, dans notre monde, pour nous en sortir. Il suffit de saisir sa main tendue. Et s'il y avait d'autres moyens que de passer par Jésus, eh bien sa mort sur la croix est inutile. Dieu serait un masochiste et nous sommes en train de perdre notre temps ce soir. Vous vous demandez peut-être ce que cela change concrètement de croire. Sans vouloir être exhaustif, voici quelques pistes que nous pouvons voir dans le texte. Croyez en la lumière afin que vous soyez enfants de lumière. Enfants de lumière. Il s'agit d'une adoption. Nous devenons enfants de lumière, ce qui veut dire nous n'avons plus à errer dans ce monde sans sens, sans objectif. Nous n'avons plus à essayer de vivre bien pour gagner assez de points, assez de miles, pour qu'un jour on puisse les monnayer avec Dieu. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, abandonnés à notre sort. Bien au contraire, nous sommes invités à nous protéger sous les ailes de Dieu. Mais c'est aussi être enfant de Dieu, enfant de lumière. C'est aussi prendre plaisir de passer du temps avec lui. Passer du temps dans la méditation, dans la prière. Est-ce que nous prenons ce temps ? Il y a également la responsabilité de vivre en cohérence avec cette foi. À l'opposé, la personne qui marche dans la lumière tâtonne. Elle n'a pas d'objectif. Elle trébuche. Elle tombe. Elle se fait mal. Elle essaye d'observer un paysage dans l'obscurité en utilisant des allumettes. C'est le temps de conclure. Vous avez cru en Jésus, mais votre lumière est ternie. Eh bien, revenez au pied de la croix et soyez régénérés. Vous doutez ? Vous êtes ébranlés par le poids du péché ? Eh bien, venez au pied de la croix. Et retrouvez la joie de votre salut. Vous êtes religieux et pieux et vous espérez que votre labeur vous sauvera. Venez au pied de la croix et découvrez un amour inconditionnel qui ne repose sur aucune balance ou instrument de mesure. Venez au pied de la croix et déposez ce fardeau en échange d'une assurance éternelle. Vous ne croyez pas et cela ne vous intéresse même pas. Venez quand même au pied de la croix, et découvrez que c'est pour vous aussi que Christ est mort. Et donc, que vous le vouliez ou non, que cela vous concerne aussi. Venez au pied de la croix et découvrez que la vie a un sens beaucoup plus profond que ce que le monde a à offrir. Venez au pied de la croix et communiez avec le Dieu de la vie. Bien, vous voulez venir au pied de la croix, mais vous avez du mal, comme le père de l'enfant possédé, tout simplement, dites à Jésus, « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire, mais viens au secours de mon incrédulité. » Je vous invite à prier. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Oui, Seigneur, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Seigneur, nous te remercions car la croix est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Elle nous révèle, Seigneur, que tu n'es pas indifférent. Que malgré le fait que tu sois saint et juste, tu es aussi amour, plein de grâce et de miséricorde. Seigneur, ne permets pas qu'on perde de vue cette croix. Ne permets pas, Seigneur, qu'on y soit indifférent, chrétien ou pas. Permets, Seigneur, qu'on puisse la contempler et comprendre la profondeur et la grandeur de ton amour pour nous. Oui, Seigneur, tu vois nos manquements, tu vois nos faiblesses. Mais malgré cela, tu es venu. Merci, Seigneur. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Au nom de Jésus, je prie. Amen.